make America great again.
Un jour, dans le monde.
I am your voice.
Sur France Inter.
Trump à la Maison Blanche, notre nouveau rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone en direct de Washington. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Donald Trump a été investi vendredi dernier. Le lendemain, Frédéric, acte 1, scène 1, l'action se déroule à la CIA.
Effectivement, c'est la première sortie du président Trump réservée à la CIA pour refermer le chapitre délicat. Vous savez, de ces dernières semaines où Donald Trump avait accusé l'agence de méthode nazie lors des fuites sur le rapport russe. On est devant le mur aux 83 étoiles, représentant chacune un employé de l'agence, mort en fonction. Et là, il se lance, Donald Trump, dans un mélange de règlement de compte avec la presse malhonnête qui a inventé ses difficultés avec la CIA et aussi d'autocélébration.
Personne n'a de sentiment plus fort pour la CIA et pour les agences de renseignement que Donald Trump. Sans doute n'avez-vous pas eu tout le temps, tout le soutien que vous vouliez, mais là vous l'aurez et vous me direz peut-être, s'il vous plaît, Monsieur le Président, ne nous soutenez pas autant. Vous savez, les militaires nous ont donné un énorme pourcentage de voix. Nous avons eu un succès incroyable chez les militaires lors de cette élection. Probablement, presque tout le monde dans cette pièce a voté pour moi, mais je ne vous demanderai pas de lever la main.
Alors vous l'entendez Nicolas, une caricature du Donald Trump narcissique qui inquiète les républicains. Des élus du Congrès se disent atterrés par ce qu'ils ont vu et entendu là à la CIA. En revanche, les mêmes se félicitent de ce qui se passe aujourd'hui, cet après-midi. Le président américain qui reçoit des patrons pour leur confirmer ses intentions de baisser au maximum l'impôt sur les sociétés, de supprimer toutes les réglementations liées à l'environnement. On a là en quelques jours, quelques heures presque un concentré de ce à quoi pourrait ressembler cette présidence.
Et puis un mot Frédéric de la première polémique du mandat, polémique sur les chiffres sur le nombre exact de personnes ayant assisté aux cérémonies d'investiture.
Oui, parce que selon tous les récits, Donald Trump n'a pas supporté les photos montrant à l'évidence qu'il y avait moins de monde vendredi dernier que pour l'investiture de Barack Obama en 2009. Ça va à l'encontre de son discours permanent sur ce mouvement qui le porte et qui, selon lui, est d'une intensité jamais connue. Donc Donald Trump, furieux, affirme qu'il y avait autour d'1,5 million de personnes et il envoie son entourage relayer ce message. Son porte-parole convoque donc la presse en urgence. Jamais, dit Sean Spicer, il n'y avait eu autant de monde et il accuse les médias d'être antipatriotes.
Le président est déterminé à unifier le pays et voilà ce que vous retenez de son discours d'investiture. Ce genre de malhonnêteté de la part des médias rend plus difficile le défi de rassembler la nation.
Une scène assez surréaliste. En quelques minutes, plusieurs contre-vérités sont énoncées. La conseillère la plus proche de Donald Trump, Kellyanne Conway, qualifie cela de fait alternatif, comme s'il y avait une réalité et celle énoncée autour du président américain. Cette guerre avec la presse remonte en fait jusqu'au plus haut niveau de la Maison-Blanche. Voilà donc le secrétaire général, Reince Priebus, qui théorise tout cela à la télévision.
Les médias, dès le premier jour, ont essayé de délégitimer l'élection en parlant des Russes et de tout ce que vous voulez, sauf de la nécessité d'avancer. Donc la question, ce n'est pas l'importance de la foule, ce sont les attaques pour délégitimer ce président. Et nous n'allons pas rester les bras croisés en regardant ça. Nous allons répondre tous les jours, et même deux fois le dimanche.
Alors deux fois le dimanche, c'est parce que c'est le jour des shows politiques à la télé, donc occasion de multiplier les interventions. Nicolas, on le voit, pour ceux qui se demandaient au nom de la fonction fait l'homme, si Donald Trump allait se discipliner en arrivant à la Maison Blanche, et bien pendant ces premières heures, c'est plutôt l'inverse qui se passe, et l'administration qui adopte les codes et les règles de celui qui vient de s'installer dans le bureau ovale.
Et on comprend du coup, Frédéric, que les journalistes américains se demandent du coup comment faire leur travail.
Absolument, ils n'ont pas fini de se la poser cette question. Je vous donne deux pistes de réflexion. D'abord ce que dit Dan Rather, légende du journalisme télévisé, juste après cette fameuse phrase sur les faits alternatifs. Il écrit « Nous vivons des heures extraordinaires qui appellent des mesures extraordinaires. Les faits, les vérités ne sont pas partisans. » Et il suggère de harceler les républicains du Congrès, de commencer toute interview en demandant « Que pensez-vous du mensonge de la Maison-Blanche ?» Et plus inédit, plus original, le site Pressfing, sous le vocable provocateur « Envoyez les stagiaires », suggère aux grands médias de ne plus concentrer leurs efforts sur la Maison-Blanche, de ne pas y mettre leurs journalistes les plus aguerris, de fuir d'une certaine manière ce théâtre et de se concentrer sur tous ceux autour, au Congrès, dans les agences de renseignement qui sont censés obéir à Donald Trump mais qui ont des doutes. En fait, un an et demi après l'émergence du phénomène Trump, on en est toujours à la même interrogation. Comment sortir de cette télé-réalité dans laquelle le désormais président américain a tout à gagner?
Bon courage à eux. Un mot pour finir, Frédéric, de ce week-end de manifestations monstres aux États-Unis.
Les rassemblements de samedi, les marches des femmes partout marquent la mobilisation la plus forte dans l'histoire du pays. Après, que faire de ça? Quel mouvement? Quelle organisation? Quelle part entre la thérapie de groupe et la pression politique? Ça redonne un peu de morale en tout cas aux anti-Trump. Et la meilleure illustration, c'est ce que disait dans le dernier Saturday Night Live le comédien d'origine indienne Aziz Ansari.
Si vous êtes effrayé par Trump et que vous vous inquiétez, ça va aller quand même. Parce que si vous regardez l'histoire de notre pays, les changements ne viennent pas du président. Les changements viennent de groupes massifs en colère. Et au jour 1, vous faites partie du groupe de gens en colère le plus massif que j'ai jamais vu. Donc bonne chance.
Ah, lui aussi, hein, voyez, bonne chance. Bon courage. Voilà, on a né Nicolas en ce début de l'ère Trump. Plus que jamais, deux Amériques. Et un proche du président américain résume ça en disant que l'on est parti pour 4 ou 8 ans de guerre culturelle.
Frédéric Carbone en direct de Washington. Merci.